Les Salutistes, journal du Jura, le 18 avril 1884. Je vais vous lire parce que c'est petit. Hein. Neuville, Évillard, Saint-Imier, Tramelan, Porrentruy, Fontenay, Ditton viennent d'être envahis par l'armée du salut. Des scènes de désordre se sont produites dans les deux premières de ces localités. À Tramelan, la population a eu le bon esprit de laisser faire ces bonnes gens. Et ils ont pu prier, chanter et pérorer. Pérorer, ça veut dire parler d'une manière prétentieuse avec emphase. Ils ont pu pérorer à leur aise. Ils n'ont donc pas troublé l'ordre public. À Porrentruy ou à Fontenay, puisque des réunions doivent avoir eu lieu dans ces localités, on n'a pas entendu dire que du tapage ait été occasionné par les fidèles salutistes. Tapage, ça veut dire bruit violent produit par un groupe de personnes. Il résulterait donc de l'expérience que le tapage, les troubles, sont fomentés par ceux qui s'attroupent devant les locaux occupés par les salutistes, plus que par ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'est à l'extérieur qu'ils ont produit plus de bruit, pas ceux qui étaient dans l'intérieur. On ne peut approuver les mesures prises contre les hommes, des femmes et des jeunes filles tout à fait inoffensifs, alors que l'on tolère dans notre pays des clubs et les congrès de l'international. Probablement un truc socialiste. Que dirait-on si une population entière se ruait devant tel ou tel établissement public ou pérore les partisans de la dynamite, où les autorités de l'État sont traînées dans la boue, où l'on conspire contre la sécurité des souverains étrangers et des capitalistes. Ces gens qui vouent une haine implacable à la bourgeoisie sont-ils moins dangereux que les pauvres illuminés des deux sexes que l'on traque et on poursuit comme des malfaiteurs? On n'attend même pas que les salutistes aient occasionné ou aient servi de prétexte à des troubles, on les dénonce publiquement comme des fauteurs. Même des jeunes filles ne trouvent pas grâce devant ceux qui se constituent les ennemis de l'armée du salut. Les archives du journal du Jura. On les traque et on les poursuit comme des malfaiteurs. On commence une nouvelle série sur trois dimanches. Et je commence avec cet exemple, mais je voudrais que ça soit clair dès le début. Le but de cette série, c'est pas d'être nostalgique des manières de faire du début de l'armée du salut, que c'était mieux avant, qu'ils devaient faire exactement comme ils ont fait. Non. Ils ont apporté la bonne nouvelle de Jésus, qu'une rencontre avec Jésus, ça change le cours d'une vie, et ils l'ont fait d'une manière audacieuse et courageuse pour l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi appelé et annoncé qu'une rencontre avec Jésus change tout le cours d'une vie. Et on est aussi appelé à le faire d'une manière audacieuse et courageuse. Mais la manière doit être faite, adaptée à notre temps, à ce qu'on vit ici à Orbe. Mais je commence avec ce texte par le courage que ces personnes ils ont eu de souffrir pour faire la volonté de Dieu. Et le texte base de ces trois dimanches, c'est celui-là. En effet, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu les peines que l'on souffre injustement. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Attends, il dit là, c'est à cela qu'il vous a appelé, à souffrir d'une certaine manière. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. La lettre de Pierre, dans les trois chapitres 2, 3 et 4, va parler sur un appel à la souffrance. Il va le dire que les hommes libres, il va le dire pour des hommes libres, il va le dire pour des serviteurs, il va le dire pour des maris, il va le dire pour des femmes, il va le dire pour l'Église face à la persécution. Tous appelés à un moment donné à souffrir s'ils veulent faire la volonté de Dieu. Il y aura une souffrance à endurer. Dans Le Roi Lion, le film, Simba est le fils du roi et il souhaite devenir grand pour fuir les limitations qu'il a en tant qu'enfant. Tout le monde a vu, je pense, hein, ce dessin animé. Dans la chanson Je voudrais déjà être roi, il chante son désir sans jamais dire où je vais. Je veux faire ce qui me plaît. Voilà. Et voilà qu'après une grosse déception, la mort de son père, il a en mélangé devant lui la tristesse, il a aussi la culpabilité, et il rencontre des amis qui l'encouragent à vivre ce qu'il voulait alors. Ce sont un facochère et un suricate, et ils disent exactement ce qu'ils voulaient entendre. Hakuna Matata, ça veut dire fais ce que tu veux de ta vie, sans soucier du passé, sans soucier de lendemain, sans soucier de qui que ce soit. Fais ce que tu veux. Et ses amis, ils disent que eux aussi sont dans la souffrance, ils disent. Le facochère souffre parce que quand il était petit, il a découvert qu'il sentait mauvais. Et c'est très négatif, ça. Le suricate chante, un jour, quelle horreur! Il comprit que son odeur, au lieu de sentir la fleur, soulevait les cœurs. Et le facochère complète, quel martyr! Quand personne ne peut plus vous sentir. Disgrâce infâme, inonde de mon âme. Je déclenche une tempête chaque fois que je. Et la dernière rime a été censurée pour ne pas choquer les enfants. Le Roi Lion est vraiment une histoire avec beaucoup de leçons qui apportent un parallèle. On pourrait faire une série sur le Roi Lion et la Bible. Il y aurait des trucs à comparer. Non, mais c'est vrai que cette pensée flotte dans l'air. Je pense même que tu as déjà senti cette odeur. Pas du facochère, mais de la pensée qui l'alimente dans son esprit. La pensée que les amis de Simba et lui-même ont nourri et qui est très répandue, c'est je souffre en ce moment, donc je m'en fous, je vais faire ce que je veux et tant pis. Je souffre, donc tant pis, peu importe ceux qui sont autour de moi, peu importe les conséquences, je vais faire ce que je veux. Voilà. Et la Bible dit bien le contraire. Il dit, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu les peines que l'on souffre. C'est à cela qu'il vous a appelé. Et des fois, pour combattre peut-être notre passé où l'Église, elle a été très sévère et très contre toutes sortes de plaisirs, c'était mauvais, c'était négatif. Et qui ce n'est pas une vérité biblique. Et peut-être pour contrer ça, on a commencé à prêcher totalement l'opposé. J'ai déjà entendu des prédications qui disent, croyez en Dieu et tout ira bien. Non, mais vraiment, tout ira bien. On n'aura plus de problèmes, plus de difficultés. Ça sera où? Excellent. Je pense pas que c'est comme ça. Mais avant de continuer, laisse-moi dire aussi qu'il y a des souffrances qui ne sont plus du tout acceptables dans le monde dans lequel on vit. À l'époque de la lettre de Pierre, par exemple, c'était normal de se faire tabasser si ta croyance dérangeait quelqu'un. On voit la quantité de fois où Paul s'était fait tabasser. Les esclaves du monde romain pouvaient aussi souffrir toutes sortes de violences physiques. On voit la même haine, même en Suisse, hein, en 1884, dans l'extrait qu'on vient de lire, une haine vers les autres, des fois même avec des souffrances physiques qui ont été endurés par ces salutistes-là. C'est encore vrai dans certains pays du monde aussi, vous le savez très bien. Donc quand Pierre écrit, c'était aussi pour supporter ce genre de souffrance, parce qu'il n'y avait aucun juge qui allait te défendre contre ces agressions à l'époque. Il n'y avait rien qui allait te défendre. C'est aussi le cas dans certains pays du monde. Mais si nous, aujourd'hui, on est témoins de choses semblables, il faut pas dire assez bien de souffrir pour Dieu. Non, il faut intervenir. Il faut faire de la justice. S'il y a de la maltraitance, par exemple, envers des femmes, des enfants, il ne faut jamais se taire. C'est pas acceptable. Il faut offrir de l'aide. Il faut fuir celui qui est oppresseur. Il faut arrêter ce système oppressif. En fait, c'était déjà pas acceptable à l'époque de la lettre de Pierre. Mais humainement, il n'y avait rien, personne à qui recourir. Aujourd'hui, ça continue inacceptable. La différence, c'est qu'au niveau humain, on peut trouver de l'aide. Si vous voyez de la souffrance physique ou verbale dans n'importe quel contexte, s'il te plaît, intervenez ou cherchez de l'aide si vous ne pouvez pas intervenir vous-même. Ça, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Ça, que ça soit clair. Donc, même si Pierre a aussi encouragé ceux de l'époque à supporter des injustices de toutes sortes, injustices qui aujourd'hui nous semblent encore plus terribles qu'ils étaient à l'époque. Mais vous savez quel est le genre de souffrance qui l'encourage le plus à embrasser ces trois chapitres? C'est pas vraiment de la souffrance physique dans le sens de châtiment ou de ce genre de choses, mais c'est plutôt ça. Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre propre nature, ceux qui font la guerre à l'âme. Ceux qui font la guerre à l'âme. En fait, c'est totalement le contraire de ce que Timon et Pomba ont prêché. Oui, on a des désirs en nous-mêmes. Certains de ces désirs, on les a depuis notre enfance. D'autres, on les a développés en grandissant. Et la souffrance qu'on est appelé à vivre, c'est ça. On prend les désirs qui viennent de nous-mêmes, on les regarde, et tous ceux qui sont contre la volonté de Dieu, on les rend à Dieu. On les dépose à ses pieds, ceux qui sont contre la volonté de Dieu. Tout en ayant plein d'envie et de volonté, je me soumets à ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie en ce moment? Et la majorité des fois, vous l'avez déjà expérimenté, c'est pas « Youhou, je laisse de côté mes désirs ». Non, ça apporte une certaine souffrance de laisser de côté quelque chose que tu as envie. On va perdre quelque chose qu'on voulait. On va laisser une opportunité passer de satisfaire un désir. Et comment c'est possible? Comment ces hommes et ces femmes ont pu accepter, par exemple, dans l'extrait que j'ai lu, de sortir de leur confort et courir le danger d'être insultés et même blessés physiquement? Et la réponse, vous avez déjà donné dans les témoignages. C'est en regardant Jésus. Le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Les trois prochaines semaines, on va regarder trois souffrances de Jésus et comment, parce qu'il a souffert, il voit ce qu'on passe et il s'intéresse. C'est ça le côté le plus fort de Jésus. Il connaît notre souffrance parce que lui-même, il a déjà passé par des souffrances similaires. Clarissa m'a déjà dit plusieurs fois, parce que j'ai déjà, par exemple, vécu des formes d'abandon ou d'insécurité pendant mon enfance ou des choses plus graves, je comprends celles qui ont passé par des choses similaires. Je comprends très bien, elle dit. Et c'est la même chose avec Jésus. Parce qu'il a souffert des choses similaires, il peut comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Dans les deux prochaines, ça sera Jésus comprend notre tristesse parce qu'il a lui-même été triste et Jésus comprend nos peurs parce que lui-même a eu peur. Mais aujourd'hui, c'est Jésus comprend nos désirs physiques parce que lui aussi, il a eu des désirs physiques. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Quel est le désir le plus physique qui est en toi et qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu? Ça peut être, par exemple, comme pour Jésus, une attirance pour une nourriture, une attirance pour une boisson, une substance qui apporte du plaisir au corps. Ça peut être aussi une attirance physique dans une relation qui n'est pas vécue dans le cadre d'une relation de fidélité à vie. Ça peut être la tendance de prendre soin de son propre corps, de ne pas prendre soin de son propre corps parce que c'est confortable de rester comme ça. C'est confortable physiquement et je reste comme ça. Et ça peut être des maladies aussi, des choses qu'on souffre physiquement et on n'a pas fait le choix. Jésus sait l'effet que ça fait. Il sait qu'un désir physique peut être très fort parce qu'il a lui-même ressenti cela. Souffrir de la faim en ayant le moyen de la satisfaire et en choisissant de ne pas la satisfaire par obéissance à un engagement à Dieu, comme Jésus, il avait cet engagement avec Dieu en ce moment-là de faire ce jeûne, c'est difficile. Et c'est parce qu'il a connu la faim qu'il est rempli de compassion. Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion. » Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Jésus avait déjà senti la faim et la souffrance que cela porte. Maintenant qu'il voit d'autres personnes qui souffrent de cette même souffrance, il lui dit, je suis rempli de compassion. Je suis rempli de compassion. Jésus, il est sensible à la détresse humaine. Même la détresse physique. Il sait ce qui coûte laisser de côté ses propres désirs physiques pour faire la volonté de Dieu ou s'offrir des privations physiques, des douleurs physiques sans avoir été coupable de ça. C'est souffrir injustement, comme dit le premier texte. On souffre des fois injustement. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une maladie ou qu'est-ce qu'on a fait pour être en cet état-là? Dieu, il comprend. Et qu'est-ce qu'on fait donc? Vous avez, comme j'ai dit, répondu. Pierre, il nous conseille ça. Approchez-vous de Christ. Approchez-vous de Christ. Augustin, qui est devenu pour l'Église catholique un saint, il a expérimenté celui-là. Il a écrit un livre appelé Confession et il écrit son parcours de foi. Et c'est intéressant parce qu'il écrit pas comme s'il écrivait à nous, il écrit sa biographie comme s'il écrivait à Dieu. Donc chaque fois qu'il dit mais tu m'as secouru ou mais tu étais là dans ce moment précis de ma vie, il dit toujours comme ça. Et il a vécu une vie totalement désordrée pendant sa jeunesse. C'était des mensonges, de la triche, une vie sexuelle sans fidélité aucune avec beaucoup de femmes. Et il écrit tout ça dans ses confessions. Et puis il plutôt à la fin dans son livre, il écrit comme ça. Quand je songeais à entrer dans le service de mon Dieu, ce que j'avais décidé depuis longtemps, qui voulait? Moi. Qui ne le voulait pas? Moi. L'un et l'autre étaient moi. Demi-voulant, demi-ne-voulant pas. Je me divisais contre moi. Et j'en étais pas l'artisan, mais le péché qui habitait en moi. Ainsi, lorsque l'éternité nous élève à ces sublimes délices, et que le plaisir du bien temporel nous rattache si bas, c'est une même âme qui veut l'un ou l'autre, mais une demi-volonté, et ses épines la déchirent. Ainsi je souffrais, et je me torturais, et ces bagatelles, ces vanités, mes anciennes maîtresses, me tiraient par ma robe de chair et me disaient tout bas, « Est-ce que tu nous renvoies? Dès ce moment, nous ne serons plus avec toi, hein ?» Et dès ce moment, ceci et cela ne te sera plus permis, et pour jamais. Elle m'abordait par des timides chuchotements murmurés à mon épaule. La violence de mes habitudes me disait, pourras-tu vivre sans elle? Quand, du fond le plus intérieur de mon cœur, ma pensée a compris toute ma misère, un affreux orage s'est déversé dans une pluie de larmes. Je me suis levé, je me suis éloigné d'Alipius, qui était un ami qui était avec lui en ce moment-là. La solitude allait me donner la liberté pour mes pleurs. Je me suis retiré assez loin pour ne pas être importuné. Je suis allé m'étendre sous un figuier. J'ai lâché les rênes à mes larmes et les sources de mes yeux ont ruisselé comme le sang d'un sacrifice agréable. Et je te parlais, pas avec ces mots, mais avec ce sens. Seigneur, jusqu'à quand m'en voudras-tu? Resteras-tu toujours irrité contre moi? Je sanglotais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Demain? Pourquoi pas à l'instant? Pourquoi pas en ce moment en finir avec ma honte? Je disais, je pleurais toute l'amertume d'un cœur brisé, et tout à coup, j'entendis sortir d'une maison voisine comme une voix d'enfant ou de jeune fille qui chantait et répétait souvent « Prends, lis, prends, lis !» Et aussitôt, changeant de visage, j'ai cherché à me rappeler si c'était un refrain d'une chanson d'enfant. Et rien m'est venu à la mémoire. J'ai reprimé mes larmes, je me suis levé et j'ai senti comme un ordre divin d'ouvrir le livre de l'apôtre et de lire le premier chapitre venu. Je suis revenu à la place où Alipius était assis, car en me levant, j'avais laissé le livre de l'apôtre. Le livre de l'apôtre, c'est Romain. C'était un bouquin de Romain. Je l'ai pris, Je l'ai ouvert et lu en silence le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Je vous encourage pas de faire ça, mais pour lui, c'était comme ça. Il a ouvert le premier chapitre qui sautait sur ses yeux et puis il a eu ça. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur. Et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Je n'ai pas eu besoin de lire davantage, il continue. Ces lignes, à peine achevées, il se répandit dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa les ténèbres de mon incertitude. Alors, ayant laissé dans le livre le trace de mon doigt, je l'ai fermé, et d'un visage tranquille, j'ai tout dit à Alypius. À l'instant, nous allons trouver ma mère. Nous lui avons raconté ce qui était arrivé. Elle s'en est réjouie. Elle tressaillait de joie, elle était triomphante, et elle t'a béni, toi qui as le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. Car tu lui as accordé en moi bien plus que ce qu'elle t'avait demandé par ses plaintes et ses larmes touchantes à ma mère. J'étais tellement donné à toi que je ne cherchais plus de femme. À ma mère, son deuil était changé en une joie bien plus abondante qu'elle n'avait espérée, bien plus douce et plus sainte que celle qu'elle attendait des enfants comme moi j'avais été. Approchez-vous de Christ. C'est ce qu'il a fait et il a trouvé du réconfort pour ses luttes. La continuation dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. » Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Vous savez, la souffrance peut, étonnamment, plus que n'importe quelle autre chose, nous édifier, nous former, nous faire devenir un groupe de prêtres saints, comme Pierre dit. Pas souffrir pour souffrir, ça sert à rien de souffrir pour souffrir. Pas souffrir à cause de nos mauvais choix non plus, parce que même si ça nous apprend aussi quelque chose, mais c'est pas le but. Mais souffrir pour la justice. Souffrir parce qu'on a décidé de faire la volonté de Dieu coûte que coûte. Ou souffrir injustement et s'approcher de Jésus pour découvrir comment je fais maintenant. J'ai rien fait pour mériter ça et je suis en train de souffrir. Quelle est la réponse? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Dieu a des réponses. Ce genre de souffrance, quand on fait pas comme Timon et Pumba et dit, ben, je fais ce que je veux, tant pis, je suis en train de souffrir, ben, je vais absolument ne plus réfléchir. Ça, c'est pas bien, mais quand un genre de souffrance nous approche de Dieu, ça, c'est un sacrifice spirituel que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Heureusement, à la fin du film, Timon et Pumba acceptent d'abandonner leur forêt verdoyante pour aller dans une terre désolée et se battre pour la justice à la fin, pour restaurer ce qui avait été brisé, pour reprendre la responsabilité qui était sur leur épaule. Finalement, c'est ça qui apporte une joie plus complète. Et si on regarde finalement le fin de notre vie, si on pouvait regarder depuis le haut la vision complète, on pourrait dire vraiment... Crois en Jésus, tout ira bien. En regardant à long terme, comme quelqu'un a dit. On pourrait prêcher ça. Mais j'hésiterais à dire cette phrase comme ça, parce que ça fait penser, comme Annelise a dit, que c'est immédiat. Que on croit en Jésus, puis voilà. C'est magique. Tout ira bien. Et c'est pas vraiment ce que la Bible promet. C'est même pas ce que Jésus a vécu lui-même. Et il a dit clairement, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et me suivre. On peut tromper les autres en disant que avoir Jésus, c'est marcher dans cette vie dans un champ fleuri, en sifflant, sans aucune difficulté, et c'est pas une vérité biblique. Prends un temps pour prier ensemble. Ensuite, on aura la bénédiction.